Ce soir, on regarde les deux derniers principes. Je vois un David qui sait ce que réellement ça signifie se confier en Dieu. Il sait ce que ça signifie réellement s'appuyer sur Dieu. David s'est confié en Dieu, c'est bête à dire, mais c'est pas parce que c'est simple à dire que c'est simple à faire. Si on relit ensemble les versets 34 à 37, on va s'apercevoir que David ne s'est appuyé sur rien d'autre que sur Dieu. Et ça, c'est la tentation du deuxième géant intérieur. C'est ce géant intérieur qui voudrait que je m'appuie pas sur Dieu, ou si je m'appuie sur lui, pas trop. Aïman, à l'intérieur, il aimerait bien que je m'appuie plus sur mon conjoint que sur Dieu, que je m'appuie plus sur mes victoires passées que sur Dieu, que je m'appuie plus sur ma santé que sur Dieu, que je m'appuie plus sur mes ressources que sur Dieu, que je m'appuie plus sur mes biens ou ce que vous voulez, mais pas trop sur Dieu. Et David, lui, ne marche pas dans ce schéma-là. David, il sait ce que ça veut dire se confier en Dieu seulement. Ce n'est pas un peu en Dieu et un peu dans le reste, c'est je me confie en Dieu seulement. Verset 34, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrichais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera ainsi de ce Philistin qui a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, et là il recentre tout encore sur Dieu, l'Éternel. Il n'a pas dit, tu sais, avec ce que j'ai vécu par le passé, avec les expériences que j'ai faites, avec ce que déjà j'ai remporté, ça va le faire. J'ai acquis de l'expérience, avec ce que j'ai vécu hier, t'inquiète pas demain, c'est peinard. Tous ceux qui ont fait ça dans la Bible, ils se sont pris, excusez-moi, une grande raclée. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, ok ? Il n'a pas chopé la grosse tête, il n'a pas chopé le melon, il n'a pas des grosses chevilles. L'Éternel, je suis bien conscient que ce que j'ai vécu hier, c'est la grâce de Dieu qui m'a permis de le vivre. Les victoires que j'ai eues hier, aussi belles soient-elles, c'est la grâce de Dieu qui m'a permis de les remporter. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. C'est une façon de dire, mais de toute façon, Dieu est le même. Il répond au même principe qui est un principe de foi exclusive. C'est absolument pas de moi, c'est simplement lui. Et David, il ne s'appuie pas sur son passé, aussi glorieux soit-il. David ne s'appuie pas sur ses victoires passées. Alors, la première fois que vous avez un lion, un ours, un géant, un problème dans votre vie chrétienne, vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos victoires passées. Vous êtes obligé de vous accrocher à Dieu comme des fous, ça c'est sûr. Et vous voyez, ce n'est pas forcément dans le début de notre vie chrétienne qu'on est le plus en danger. Non. C'est quand on est bien installé dans la vie chrétienne. Les rois qui ont chuté dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas chuté au début de leur règne. Ils ont chuté plutôt dans le milieu, voire à la toute fin. Il y en a certains, ils ont chuté 2 ans avant la fin de la course. Et ils ont tout perdu. Parce qu'avec le temps, ils étaient bien installés dans leur église, bien installés dans leur ministère, bien installés dans leur confort, bien installés dans leur victoire. Et quand on est vraiment en danger, ce n'est pas au début de la vie chrétienne. Les vrais dangers, c'est qu'on commence un petit peu trop à s'installer. On dit « Ouais, je connais ça. » Tu connais, oui. Connais-toi toi-même déjà, oui. David n'a pas compté sur des victoires passées. David, verset 39, je l'avais dit vite fait, je le redis, c'est un de mes passages préférés dans le texte. C'est une des preuves que David avait déjà vaincu ce géant intérieur qui s'appelle Talmaï, ce géant qui veut absolument toujours faire, toujours comme on a toujours fait. C'est un piège. David ne s'est pas dit « Ouais, mais moi je connais comment ça s'est passé à telle époque. Il y a quand même un brave gars qui s'appelait Josué. Josué, lui, il a tourné autour des murailles comme ça. Et bien ça a marché en 1964. Je me souviens, on avait eu plein de résultats. Et bien on va faire ça. » Ben non. Ouais, mais moi, je connais un autre, je peux vous dire, en Amérique, pour avoir le réveil, ils ont fait comme ça, ils ont commencé à faire ceci, à faire cela. Et moi, je connais un gars, il s'appelait Gédéon. Ben, je peux vous dire, c'était un homme rempli de l'esprit. Il avait des cruches et des flambeaux. Et David, lui, il n'est pas rempli de cet esprit de Talmaï, le sillon, l'ornière. Faut faire comme on a toujours fait. Ça, c'est pénible au possible. Ça, c'est un tueur de foi, c'est un tueur de fraîcheur, c'est un tueur d'authenticité, c'est un tueur de victoire. C'est Talmaï, c'est waouh, c'est super lourd. Et Saül, il faut comprendre que alors qu'il est déjà déchu, même s'il est encore en place, il est déjà déchu. Dieu a déjà statué sur lui, Dieu a déjà averti le prophète Samuel sur la chute de Saül. Saül, lui, c'est le type du leader religieux rétrograde qui, de toute façon, le nom de Dieu, sans plus. Ce qui compte, c'est son confort. Et ce que Saül veut, lui, c'est faire comme il a toujours fait. Tu sais, mon gars, moi, là, il y a quelques années, j'ai remporté une victoire dans tel domaine comme toi. J'ai fait comme ça. Fais comme moi. Il faut que tu organises l'église comme moi je l'ai organisée en 1972. Il faut que tu fasses les réunions comme moi je les ai faites en 1983. Il faut que... Ah, waouh, waouh, waouh. Ça fait pas longtemps que je suis là, vous avez compris que c'est le genre de choses qui me saoule au plus haut point. L'esprit de Talmaï, ça m'insupporte d'une force, vous savez très bien. Et David, il n'était pas dans ce genre de schéma, et à un moment, il a... C'est comme si Saül lui avait un peu forcé la main. Et David, à un moment, il a dit, mais c'est n'importe quoi. Je ne vais pas remporter des victoires demain avec les trucs ou les méthodes d'hier. J'ai un Dieu quand même beaucoup plus grand que ça. Et il a pris l'armure de Saül, c'est un de mes versets préférés. Il s'en est débarrassé. Il a dit, non, je ne veux pas de trucs, je ne veux pas de méthodes, je ne veux pas de stratégie, je ne veux pas m'appuyer sur mes victoires passées, je ne veux pas m'appuyer sur un homme ou sur les expériences d'un autre. Alors, ce qui me plaît, parce que David parle quand même de son passé. Il y a des gens, ils oublient le passé, c'est une erreur. Et d'autres, ils vivent dans le passé, et c'est aussi une erreur. Je ne peux pas vivre dans le passé, parce que sinon je n'ai pas d'avenir. Même si mon passé est bon, même s'il est beau, même s'il est glorieux avec Dieu, je ne peux pas vivre dans le passé. Mon passé, aussi beau soit-il, avec Dieu, il n'a pas d'avenir. C'est clair. Et je ne peux pas non plus l'oublier, dire « ouais, tout ça, c'était des vieux, tout ça ». Non, je ne rejette pas les vieux pasteurs, je ne rejette pas leurs conseils, je ne rejette pas leur expérience, je ne rejette pas les vieux chrétiens qui ont des choses à me dire et à m'enseigner, moi, jeune pasteur, je ne rejette pas tout ça. Mais David a un équilibre. C'est comme quand vous conduisez votre voiture. Conduire une voiture sans rétroviseur, c'est interdit par la loi. Il faut avoir un rétroviseur, même deux ou trois, c'est mieux. Mais vous vivez pas, vous conduisez pas vos voitures comme ça. Parce que vous allez aller dans le mur, d'accord? Donc il y a l'équilibre au sujet du passé. Il a une relation équilibrée à son passé. Il y a un coup d'œil dans le rétro, parce que oui, le passé me prodigue des bons rappels, peut m'enseigner, bien sûr, mais je comprends que mon passé, s'il me véhicule un message, il ne peut rien faire pour moi en termes d'avenir, et ce n'est pas un gage de victoire. Si vous misez sur vos victoires passées, vous êtes comme Josué, vous êtes comme le roi Asa, vous êtes comme tant d'autres, à différents moments de leur vie, vous allez dans le mur si vous misez sur autre chose que sur Dieu. Nos victoires passées, elles sont juste là pour nous encourager, pour nous rappeler, et c'est ce que David fait. Quand je lis ça, moi, je ne sais pas vous, moi j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit « Hey, tu te souviens l'époque où tu t'appuyais vraiment sur moi? Tu te souviens comme bizarrement ça marchait drôlement mieux ?» Je ne vis pas dans le passé, mais les victoires passées me véhiculent un message. Et Dieu veut que je regarde le petit rétroviseur. David avait le petit rétro. Et c'est comme si le Seigneur me disait « T'as pas l'impression qu'aujourd'hui tu es en train de te noyer dans un verre d'eau, non ?» Tu me racontes des grandes expériences des années 60-70, c'est super. Et ces expériences, elles te disent, tu te souviens comment ça marchait mieux quand tu t'appuyais vraiment sur Dieu? Tu te souviens comment ça marchait mieux quand tu venais pas à l'église parce qu'il fallait, mais parce que dans ton cœur, tu avais une passion, il n'y avait rien qui pouvait t'arrêter. Il n'y avait rien dans tes pensées qui passait avant Dieu. Bizarrement, tu te souviens comment ça marchait mieux ? Et c'est comme si le texte me disait ici, mais continue à t'appuyer sur Dieu, ne te laisse pas détourner. Tout ce sur quoi tu t'appuies, te met inévitablement en danger. Tu as besoin de te confier en Dieu, tu as besoin de t'appuyer sur lui, s'appuyer, piéter, puiser sont des verbes qui ont la même racine. Et quand tu t'appuies, que tu puises en lui, tu vas puiser des ressources nouvelles. Et tu ne peux pas vivre avec les ressources d'hier. Tu ne vis pas ta vie chrétienne aujourd'hui avec la vie de piété d'hier. Je fais face aux défis d'aujourd'hui avec la piété d'aujourd'hui. Et je ferai face aux défis de demain, pas avec ma piété d'aujourd'hui, avec ce que j'ai puisé dans les ressources de Dieu. Demain, j'aurai besoin d'une dimension de piété pour les défis de demain. Je ne vis pas ma vie chrétienne aujourd'hui avec la foi d'hier. La foi, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie. Elle doit être constamment renouvelée. Et demain, il faudra que je vive les défis de demain avec une dimension et une mesure de foi. Et à chaque jour, à chaque défi, à chaque époque de ma vie, j'ai besoin d'avoir une dimension de foi. OK ? Et je ne vis pas avec la foi ou avec la piété d'hier. Donc, David n'a pas misé sur le passé, il n'a pas misé sur ses expériences passées, il n'a pas misé sur sa piété d'hier, il n'a pas misé sur la foi d'hier, et en se débarrassant de l'armure de Saül, David, c'est comme s'il me disait aussi, ne mise surtout jamais sur une méthode. Le truc avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas de truc. La méthode avec Dieu, c'est jamais de méthode. Il n'y a pas de méthode. Le truc, c'est Dieu. David me dit, la méthode, c'est Dieu. Le reste, il n'a pas misé sur une méthode. Il n'a pas compté sur ses ressources d'hier, pas compté sur les moyens d'un autre. Il n'a pas compté sur les stratégies d'un autre. David, contrairement à Saül, n'était pas attaché à la forme, il était attaché au fond. Et les réflexions du genre « fais comme le frère untel a toujours fait », ça ne marche pas et ce n'était pas du tout le genre de David. David, pour pouvoir aller affronter Goliath, je refais le petit flashback que je vous avais promis, il était déjà dans son cœur, il était vainqueur sur Shéchaï, ce géant de la demi-mesure, le géant du manque d'engagement. Il était vainqueur sur Aïman, le géant qui voulait l'amener à s'appuyer sur son expérience passée. Et il était vainqueur sur Talmaï, le sillon, l'ornière, le géant qui voulait qu'il utilise les méthodes d'un autre. Et parce qu'il était vainqueur sur ces trois géants-là dans son cœur, quand Saül est arrivé avec ses gros sabots pour lui mettre sa grosse armure d'il y a 50 ans, il a dit « ouais, c'est bon, allez, vire-moi tout ça ». Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, quel est le géant qui est devant toi, quel est ton défi. Mais Dieu est un Dieu de guérison, ça c'est sûr. Mais la façon dont le Seigneur a guéri le frère, un tel ou la sœur, une telle, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ça ne se passera pas comme ça maintenant. Dieu est un Dieu de guérison. Amen. Le fond, c'est le fond. Dieu est un Dieu qui pourvoit, il s'appelle Yahvé Jiré. Mais comment est-ce qu'il va pourvoir à tes besoins? Comment est-ce qu'il va agir? Je vous l'ai déjà dit, nous, on aime bien les formes. On aime bien savoir comment les choses vont se passer, ça nous sécurise. Mais ce sont des fausses sécurités. Dieu n'est pas le Dieu des formes. Dieu est le Dieu du fond. Pas de stratégie, pas de truc, pas de méthode, pas les trucs d'un autre. Le truc, c'est Dieu. La méthode, c'est Dieu. La stratégie, c'est Dieu. La victoire, c'est Dieu. Il n'a qu'un seul nom à la bouche, en fait, il est un peu pénible, il n'a que ça à dire. Mais il n'a que ça à dire, c'est Dieu. Mais enfin, lui, ça marche. Hein. L'armure de Saül, c'était pour Saül. La fronde de David, c'était pour David. Ah tiens, bizarrement, derrière David, jamais personne n'a affronté un autre géant avec une fronde. Ça ne s'est pas refait derrière. Tourner autour des murailles de Jéricho, ça s'est fait une fois, mais jamais personne ne l'a refait. les cruches et les flambeaux de Gédéon. Regardez bien, jamais personne n'a refait ça. Et on peut multiplier ainsi comme ça les exemples. Lorsque le Seigneur, dans le deuxième livre des Rois, Élisée avec son serviteur, il est à Dothan, le serviteur marche par visibilité, il ne voit que l'armée ennemie qui l'encercle. Et Élisée marche par vision et il voit l'armée de Dieu qui encercle l'armée ennemie. Et quand on lit la suite du récit, Dieu a aveuglé l'armée. Il a ouvert les yeux du serviteur, il a aveuglé l'armée. Mais Dieu n'a pas toujours fait comme ça non plus. Ça s'est fait une fois. Il y a des tas d'interventions de Dieu, pour ne pas dire toutes les interventions de Dieu, répondent toujours au même principe, mais quelque part, elles sont uniques. Et c'est comme ça que Dieu montre qu'il est Dieu. Dans sa diversité d'action, dans sa richesse. Vous, le Seigneur, vous l'attendez là, eh bien, il arrive là. Vous attendiez à ce qu'il fasse comme ça, eh bien non, il va faire comme ça. Et là, vous attendez. Il est pénible, le Seigneur, quand même. Il ne fait jamais ce que je lui demande, il n'est jamais où je l'attends. Il exagère quand même. Il ne fait pas ce que je lui demande. La méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Dieu fait toujours des choses extraordinaires, mais jamais de la même façon. C'est exprès, c'est pour que l'on s'attache à lui, à rien d'autre, à personne d'autre, à aucune forme, à aucune expérience passée, aussi glorieuse soit-elle. Jamais de truc, jamais de méthode. Si en venant dans cette série de messages, vous espériez que Stéphane Brion vous sorte une baguette magique de 1 Samuel 17 pour terrasser votre géant demain matin, eh bien, vous avez perdu votre soirée, désolé. David, il était fort de la présence de Dieu. C'est le sixième point. Lien de cause à effet. Est-ce que c'est surprenant d'être fort de la présence de Dieu quand on a puisé en Dieu et qu'on se confie en lui seulement? Rien d'extraordinaire au final. Finalement, terrasser Goliath, quand on a les bons principes de vie, les bons principes de victoire, c'est même pas extraordinaire, c'est juste normal. C'est la vie chrétienne normale. David était fort de la présence de Dieu. Parlons un peu de la présence de Dieu. Quand on regarde un homme comme David, on s'aperçoit que toute sa vie, David a tendu vraiment dans son cœur. Ce n'était pas un homme parfait, ce n'était pas un homme qui n'aurait pas commis d'erreurs, qui n'aurait pas eu de défaillance. On connaît ses défaillances de mari, on connaît aussi ses défaillances de père. David, il a fait des boulettes, pardonnez-moi, plus grosses que lui. Oui, mais David, même s'il y a eu des défauts, il y a eu des erreurs, il y a eu du péché, il y a eu des chutes, David, c'est pas pour rien qu'il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, parce que toute sa vie, dans son cœur, David, il a cherché Dieu. La priorité des priorités, la priorité de sa vie, c'était de chercher Dieu. Il a tendu vers lui. Dès sa jeunesse, c'est une relation, une intimité. Il est déjà en train d'être forgé, d'être façonné, pendant qu'il garde les brebis, alors que le vieux papa Isaïe est en train de présenter les 7 premiers fils au prophète Samuel. À chaque fois, Samuel reçoit la pensée de Dieu. Non, c'est pas Eliab. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et au bout des 7, Samuel se tourne vers le vieux papa Isaïe, lui dit « T'as pas oublié de me dire quelque chose ?»« Ah !» Vous savez, il y a des gens, ils ont tellement d'enfants, ils en oublient toujours un. Il avait oublié David, il était dans les champs. David, il comptait pour personne. Personne n'aurait misé sur lui. David, il comptait pour personne, mais dans les champs, quand il était jeune, quand il était en train de garder les brebis, le Seigneur savait très bien ce qu'il faisait lorsque David était oublié de son papa et de ses frères. Dieu était déjà en train de le forger et de lui apprendre la valeur de sa présence. Quand il ne pouvait pas compter sur son papa, il ne pouvait pas compter sur ses frères, il ne pouvait pas compter sur quoi ? Sur sa taille, sur sa force, il est blond, il a une belle figure, il est petit, il pouvait compter sur rien. Oui, mais Dieu savait très bien ce qu'il était en train de faire, parce qu'il était en train de lui apprendre dès sa jeunesse la valeur de sa présence. Et il ne se contentait pas de garder des chèvres, il était déjà dans la communion avec Dieu. En gardant les brebis, il avait déjà appris à chercher, à chérir la présence de Dieu. Il avait déjà appris à cultiver, à entretenir, à développer la présence de Dieu en lui. David et Dieu, quand vous lisez tous ces récits, David et Dieu, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire amoureuse. C'est une histoire passionnée. Toute sa vie, il a cherché Dieu. Jusqu'à ce moment avec Goliath, où David a marché avec le seul nom de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, un chrétien n'est pas fort par lui-même. On est fort de la mesure de la présence de Dieu qu'il y a dans nos vies. Un pasteur, même s'il a 50 ans d'histoire du réveil derrière lui, il n'est pas fort de lui-même, il est fort de la mesure de la présence de Dieu et de l'onction qu'il y a sur sa prédication aujourd'hui. Une église n'est pas forte de ses victoires passées, une église est forte de la présence de Dieu dans son sein. Seule la présence de Dieu est efficace. Il n'y a que la présence de Dieu qui va renverser tous les obstacles. Et on s'aperçoit que la présence de Dieu, ça a été en réalité la force de tous les grands hommes de Dieu. C'est facile, on le dit souvent, on dit « Comment voulez-vous que j'y arrive avec ce qui m'arrive ?» Je suis désolé, Dieu ne se trompe pas quand il mesure nos épreuves, Dieu ne se trompe pas quand il mesure nos géants, Dieu ne se trompe pas quand il a mesuré nos circonstances ou qu'il les a permises, quand Dieu a mesuré la longueur et l'intensité d'une épreuve, non, il ne s'est pas trompé. Et souvent dans nos cœurs, c'est humain, je dis pareil. On dit, mais comment voulez-vous que j'y arrive ? Le géant est trop grand. Non, le géant n'est pas trop grand. Si tu penses sans arrêt, je remets, hein, écoute, langage, etc., vision. Si tu es toujours en train de dire, mon géant est trop grand, j'y arriverai pas, c'est une façon implicite de dire, de toute façon, Dieu il s'est planté. Il l'a mal mesuré et il m'a collé un truc qui était trop pour moi. Donc quand je dis « mon géant est trop grand », quelque part c'est déjà remettre en question la souveraineté et la capacité de Dieu, sans culpabiliser personne évidemment. Non, le géant n'est pas trop grand. La nuit n'est pas trop épaisse. Daniel a été déporté à Babylone, il a triomphé dans une des époques qui étaient les plus sombres. Il appelle dans sa prière, Daniel 9, « la grande calamité », une comme il n'en est jamais arrivé de pareil sous le ciel à Jérusalem. Non, la nuit aujourd'hui n'est pas trop épaisse. Non, je dis à beaucoup de pasteurs que j'aime de tout mon cœur, non, l'Église n'est pas trop difficile, c'est trop facile à dire. Il y a des défis, il y a des combats, il y a des problèmes. Ah oui, mais ça c'est partout, je veux pas... Voilà. Non, l'Église n'est pas trop difficile. Non, ce n'est pas le pasteur qui est trop difficile. Bon, des fois, il ne comprend pas trop ce qu'on lui dit, mais pour une Église, c'est trop facile de dire « c'est toujours la faute du pasteur ». Non, je ne suis pas d'accord non plus. Non, ce n'est pas le monde qui est trop grand. Non, ce ne sont pas les problèmes qui sont trop grands ou trop nombreux. Il faut comprendre, frères et sœurs, que la présence de Dieu, elle va toujours produire des choses, des œuvres, elle va produire des résultats que rien ni personne n'aurait pu produire autrement. Avec Dieu, le problème n'est jamais le problème. Ni ma force, ni ma technique, ni ma sagesse, ni mes ressources, ni mon intelligence, ni mes capacités, ni mes expériences d'hier, ni mes victoires passées, rien, absolument rien, ne saurait égaler l'efficacité de la présence de Dieu. Et ça, c'est la force de tous les hommes de Dieu, dans cette parole, en dehors de la parole, c'est la force de tous les chrétiens, c'est la force de toutes les églises, c'est la présence de Dieu. Je prends un exemple comme Moïse et Josué. Il est dit dans le livre de l'Exode que Moïse, dans la tente d'assignation, dans la tente de la rencontre, Moïse parlait face à face, bouche à bouche, littéralement, avec Dieu, comme un homme parle à son ami. Et quand Moïse, à cause de la responsabilité de la charge qui était la sienne, devait retourner au camp, il nous est dit que Josué ne sortait pas de l'espace de la tente. Et Josué était déjà baigné des années avant qu'il ait une responsabilité, une charge. Il était déjà imprégné de la présence de Dieu. Il ne sortait pas de la présence de Dieu. Pardon, frères et sœurs, souvent on dit c'est trop. C'est trop haut. Il y en a trop. Pardon, ça fait combien de temps que tu n'as pas eu un vrai face-à-face, un bouche-à-bouche avec Dieu? La présence de Dieu dans toute mesure dépasse et de loin tout ce que je peux concevoir. C'est certainement pas la stratégie minable et lamentable, honteuse, militairement parlant, que Dieu a donnée à Josué qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Certainement pas. Et Dieu a fait exprès de lui donner un plan militairement lamentable. Ce qui a fait la différence, c'est que l'arche, le symbole de la présence de Dieu, était parfaitement à sa place dans le cortège qui, excusez-moi l'expression, tournait bêtement autour des murailles. C'était une façon pour Dieu de dire déjà à cette époque-là, largement avant David, la victoire, elle appartient à moi, à l'Éternel, et pas à vous. Et vous n'allez pas vous enorgueillir. Et l'arche, le symbole de la présence de Dieu, était parfaitement à sa place. Quand la présence de Dieu est parfaitement à sa place dans nos cœurs, dans nos priorités, dans nos agendas, dans nos temps d'église, dans nos temps de méditation biblique, dans ceci, dans cela, dans nos rencontres, quand la présence de Dieu est vraiment là, croyez-moi, il n'y a absolument rien qui peut lui résister. C'est quand même pas David avec sa fronde. Je veux bien qu'il avait passé du temps comme berger. On ne va pas me faire croire qu'il avait une technique à ce point-là. Au point qu'avec une fronde, c'est bon quoi. Qu'est-ce qui a renversé Goliath réellement? C'est la présence de Dieu. Comment il avait la présence de Dieu à ce point-là, à cause des 5 premiers points? Quand vous pensez à un homme comme Ozias, deuxième livre des Chroniques, un homme qui a eu un règne extraordinaire. La présence de Dieu lui a donné des victoires à l'intérieur. Il a renforcé le royaume. La présence de Dieu lui a donné des victoires à l'intérieur, à l'extérieur, pardon. La présence de Dieu lui a permis de changer, de transformer le paysage du désert. Si vous relisez l'histoire d'Ozias, dans les 90% de sa vie, ce qu'il a vécu et ce que Dieu a fait avec lui, c'était extraordinaire. Il avait, comme tous les grands hommes de Dieu, il avait ce génie, cette inventivité. Il y a des gens, malheureusement, ils cherchent à être originaux. Vous trouverez des pasteurs évangéliques ici, ailleurs, n'importe où. Leur problème, c'est qu'ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent à être inventifs. Ils cherchent à être efficaces. Je connais des pasteurs, ils cherchent des solutions. Je connais des pasteurs, ils cherchent le réveil. Ben moi, je vous le dis, ça vous choque, non, je ne cherche pas le réveil. Il y a des gens, ils cherchent ceci, ils cherchent des réponses. Il y a des pasteurs, ils cherchent de l'argent pour leur église. On cherche tout. Mais combien vraiment cherchent Dieu? Il y a des gens, ils cherchent des guérisons. Est-ce que c'est légitime? Oui, on cherche des bénédictions, on cherche des exaucements, mais... Dieu dit, mais quand vous avez jeûné, quand vous avez prié, et ce depuis 70 ans, est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné? Est-ce que je cherche Dieu pour qui il est, ou je cherche Dieu pour ce qu'il va faire? Dieu, il sonde mon cœur. Et un homme comme Ozias, il est dit de lui que aussi longtemps qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et sur les quelques années de course qui restent avant la fin de sa vie, à partir du moment où il arrête de chercher Dieu, tout s'effondre. Il perd tout. La clé de la victoire, c'est la présence de Dieu. S'appliquer à rechercher Dieu. Pas tout le reste, cherchez Dieu. Un certain Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, ce qui signifie littéralement, cherchez à être convenablement, spirituellement, Cherchez à être convenablement positionné dans les situations de vos vies. C'est ça la justice divine. On en reparlera bientôt. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Un homme comme David, vous voyez, c'est Dieu qu'il cherchait. Il ne cherchait pas ses bienfaits. Il ne cherchait pas ses bénédictions. Il ne cherchait pas ce qu'il arrangeait de Dieu. Il s'intéressait à Dieu vraiment pour lui, pour qui il est. Pas pour ce qu'il fait ou donne. Combien même je sais que son cœur de père veut et peut tout me donner. Ça, frères et sœurs, ça doit être toujours l'objectif de ma vie, l'objectif de la vôtre, l'objectif de n'importe quelle église, quels que soient les défis qui sont devant elle, c'est que Dieu soit toujours l'essentiel de ma vie. Cherchez Dieu de tout son cœur. L'Éternel du haut des cieux parcourt la terre du regard. Il regarde les fils des hommes, psaume 14, psaume 53. Il cherche un homme intelligent qui cherche Dieu. Intelligent. Et la définition de l'intelligence dans le vocabulaire divin, c'est celui qui cherche Dieu. Celui-là, il est vraiment intelligent. Le papa de Anne me disait souvent, le jour où tu auras trouvé Jésus, tu auras tout trouvé. J'ai dû mettre au moins 10 ans à comprendre ça. Mais le jour où j'ai trouvé Jésus, la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2006, ah, je peux vous dire que ce jour-là, j'ai tout trouvé. Ah oui, et je m'en souviendrai toute ma vie. Eh oui. Ozias s'appliqua à rechercher Dieu. L'homme intelligent, dit David, c'est celui qui cherche Dieu. Dans le psaume 84, les fils de Corée disent, alors qu'il est question de la vallée des larmes, qu'il est question de la vallée de Baca, la vallée des larmes, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Et les parvis, dans le langage de l'Ancien Testament, les parvis, c'est la présence de Dieu, d'accord ? Dans le langage de l'Ancien Testament. C'est la présence de Dieu. C'est comme s'il me disait, Dieu peut faire en un jour, en quelques instants, Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que tes trucs, tes méthodes, tes stratégies, tes combats charnels, tes combats de langue, tes disputes de mots, tes tentatives de persuasion d'un tel, de machin, de bidule, de trucs, de tout ce que tu as voulu produire au point de te fatiguer, d'être harassé, découragé, de ne plus vouloir entendre parler de rien, tout ce qu'en 1000 jours tu n'as pas produit, en un jour Dieu il te le fait. Pourquoi tu n'as pas été chercher sa présence ? La présence de Dieu, c'est sa prééminence, sa supériorité, sa suffisance, son efficacité, elle est partout dans la parole. Dans le psaume 27, David dit encore, « Il y a une chose que je désire ardemment. » Ardemment, dans la version originale, c'est un mot qui signifie, c'est l'image d'une corde, c'est un mot qu'on employait pour une corde qui était tendue à l'extrême. Une chose que je désire ardemment. David dit, il y a à l'intérieur de mon âme une tension extrême pour la présence de Dieu. Le psaume 42 dit, je soupire après toi, c'est pas David qui l'a écrit, je soupire après toi comme une biche soupire après des courants d'eau. C'est pas que la présence de Dieu c'est sympa, c'est que si j'ai pas la présence de Dieu, je meurs. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Et vous savez, frères et sœurs, quand vous commencez à chercher Dieu, pas ses bénédictions, quand vous commencez vraiment à chercher Dieu, et que là, à ce moment-là, quand vous cherchez Dieu, vous sentez cette tension dans votre âme, et c'est comme ça qu'un jour j'ai été obligé, moi, de chercher Dieu pour ma vie, j'ai été obligé de le faire. Et merci Seigneur pour les déserts qui m'ont ramené à la raison, merci pour les déserts qui m'ont redonné la soif. La vraie, la question de soif, de vie ou de mort. Et quand vous cherchez Dieu, parce que vous sentez intérieurement que c'est une question de vie ou de mort, vous ne cherchez pas pareil. Vous priez plus pareil, vous lisez plus votre Bible pareil, vous êtes plus assis à l'église de la même façon, vous avez plus la même attitude de cœur. Et là, c'est pas vos problèmes qui vous empêchent de dormir. Là, c'est l'absence de la présence de Dieu qui vous empêche de dormir. Et là, vous commencez à chercher Dieu le matin, le midi, le soir, vos vacances, votre agenda, votre argent, vos machins, ça compte plus, ça n'a aucune importance, vous vous en fichez. Tout ça, c'est vanité, des vanités et poursuite du vent. Et vous vous dites, mais si je ne vis pas dans une dimension plus grande de la présence de Dieu, ma vie, elle n'a aucun sens, j'ai tout raté. Une chose que je désire, dit David, une chose que je désire ardemment. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, quels sont les géants qui sont en face de vous aujourd'hui. Et je ne sais pas quand et comment Dieu vous permettra de les terrasser. Mais je sais que si vous pouvez acquérir une authentique vision de Dieu, si comme David, vous êtes à l'écoute de Dieu seulement, si comme David, vous n'êtes pas seulement dans la maison de Dieu, mais que vous parlez le langage de la maison de Dieu, le langage du royaume, si comme David, vous avez un engagement de cœur, une passion pour le nom de Dieu, si comme David, vous savez ce que ça veut dire se confier en Dieu seulement, vous serez naturellement baigné, rempli de la présence de Dieu et vous allez découvrir de nouvelles ressources, une nouvelle efficacité. Et vous allez pouvoir, simplement avec, comme David, le seul nom de Dieu, la seule présence de Dieu, expérimenter de grandes victoires, triompher de vos géants. La présence de Dieu fera toute la différence. Vous ne vivrez plus dans l'angoisse. Vous ne vous réveillerez plus la nuit sans savoir pourquoi vous êtes angoissé. Vous ne vous réveillerez plus la nuit en pensant à vos problèmes. Vous ne, je sais pas, vous serez plus... Comment dire, c'était le terme clé lorsque Goliath a jeté le défi. Vous nous serez assujettis. Vous ne vivrez plus assujettis par des situations, par des géants. Mais vainqueurs intérieurement. Et toutes les victoires que je remporte à l'intérieur par la grâce de Dieu se concrétisent ensuite à l'extérieur dans les circonstances. Et vous pourrez expérimenter que la présence de Dieu fera en un claquement de doigts, en un jet de fronde, en un jet de pierre, la présence de Dieu va faire infiniment plus que tout ce que vous, vous n'avez pas réussi à produire depuis des années. On va se recueillir ensemble, s'il vous plaît.